Europe 1,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour tout le monde.
Bienvenue dans votre émission Bien fait pour vous, celle qui prend soin de vous tous les jours jusqu'à midi. Et ce matin Mélanie, quel sera notre grand dossier du jour?
Ça va vous plaire Julia, car vous parlez je crois 5 ou 6 langues, hein, c'est
ah oui,
ça? Je plaisante évidemment vous concernant et je ne suis guère mieux, je dois l'avouer, mais comme beaucoup de Français, alors pourquoi a-t-on tant de mal à apprendre les langues étrangères en France? D'ailleurs, est-ce que c'est vrai que nous sommes si nuls que ça? On fera le point aujourd'hui, mais on a aussi prévu de vous aider... Si apprendre l'anglais ou l'espagnol, par exemple, vous semble mission impossible, ce matin, on va également mettre un coup de projecteur sur quelques méthodes innovantes pour nous faciliter ce type d'apprentissage. On fera un focus sur le digital ou même sur l'hypnose qui pourrait nous être d'un grand secours. It's okay for you, Julia?
Yes, it's perfect. Ensuite, Mélanie, à 11h45, ce sera notre séquence tendance avec deux chroniqueurs de talent comme chaque jour. Aujourd'hui, le duo sera composé tout d'abord de Soizic Belin. Elle a testé pour nous un atelier d'éveil musical pour les tout-petits. Il en ouvre un peu partout en France et elle nous dira quel bienfait ce type d'activité peut avoir sur les bébés. Et puis pour terminer cette émission, Vincent Busset, notre expert déco, nous rejoindra à son tour. Il veut nous présenter ce matin plusieurs marques vraiment très innovantes dans le secteur de la déco d'intérieur.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1, bienvenue dans votre émission Bien-être Feel Good. Pendant une heure, on va comme tous les jours tenter de vous faire du bien, tout particulièrement si comme nous, il vous reste peu de choses de vos cours d'anglais ou encore d'allemand de l'époque du collège-lycée. Notre question du jour, la voici. Pourquoi a-t-on tant de difficultés en France avec l'apprentissage des langues étrangères?
Oh, mais moi ça va, hein. Franchement Mélanie, vous exagérez, écoutez.
Where is Brian? Oh, Brian is in the kitchen.
Oui, c'est pas mal. Bon, on va effectivement essayer de faire un constat. Est-ce qu'on est aussi nul qu'on le prétend dans notre pays pour assimiler d'autres langues? Et puis, surtout, y a-t-il de nouvelles méthodes peut-être pour faciliter ces apprentissages? On va détailler tout ça avec plusieurs experts aujourd'hui, mais avant cela, on va prendre conseil auprès d'un homme complètement quadrilingue, je crois, qu'il parle notamment le vendéen parfaitement. N'est-ce pas Clément Lanoux? Bonjour.
Brioche à tous les auditeurs d'Europe 1, ça veut dire bonjour en vendéen, exactement, c'est la spécialité. Non, niveau très léger, moi j'ai fait anglais comme tout le monde à l'école, 8 ans d'allemand LV1, willkommen tout le monde, bienvenue, et turc, merhaba senna sassem,
him
benim, comment ça va?
Ça veut dire donnez-moi mes droits sassem?
Oui exactement, donnez-moi mes droits sassem, c'est exactement ça. Alors on a ce problème, je ne suis pas le seul en France avec l'anglais, on n'est pas tous très très bons, on a un accent très français qui apparemment séduit énormément à l'étranger, mais les Français, est-ce qu'ils parlent des langues étrangères?
Oui, l'anglais, l'espagnol et le français.
Oui, je parle un peu l'anglais, quoi.
Oui, on va tester tout à l'heure. Et puis, je suis tombé quand même sur l'arrogance française, on le sait, qui maîtrise tout.
Là, c'est un peu compliqué parce que, en fait, mes parents sont espagnols, je suis française, donc je parle déjà ces deux langues à la base. Ensuite, j'ai fait du latin, donc je comprends l'italien, je le parle moyennement, mais je le comprends bien. J'ai appris l'anglais et l'allemand à l'école. Je comprends les deux. J'ai un peu de mal à parler les deux. Donc, compliqué.
C'est compliqué. Ouais, ça fait beaucoup.
Elle parle français-espagnol.
Voilà. Parce que j'ai fait latin et je me fais comprendre en Italie. J'ai fait latin aussi. Ouais. Je suis allé à Rome. Ça n'a absolument rien à voir. On va détailler avec vous dans cette émission des techniques pour apprendre des langues étrangères plus facilement. C'est quoi votre technique à vous?
Les dates Tinder. Non, parce que ça ne marche pas sinon tellement avec les professeurs et tout ça.
Bah, moi je regarde les séries, hein, c'est classique, mais les séries, première étape c'est sous-titres français, après sous-titres anglais, et j'ai encore pas fait sans sous-titres.
Eh oui, alors ça c'est une bonne astuce, les séries où la meilleure, on l'a entendu, tomber amoureux d'un américain ou d'une américaine, ça cartonne. Attention, c'est parti, j'enfile mon costume de professeur. Comment dit-on par exemple parapluie en anglais? J'ai posé la question.
Ah, oui.
This is an umbrella. Est-ce que la prononciation est bonne? Pas mal, hein?
It's an umbrella.
Oh, umbrella.
Power play? Power play. Paraply.
Paraply. J'ai demandé quand même. Il y en a trois qui m'ont dit paraply. Ça se dit comme ça. Alors j'ai voulu quand même une phrase plus d'actualité. Vous écoutez Europe 1. Vous êtes dans Bien fait pour vous. Et justement, j'ai demandé à des personnes. Alors comment on pourrait dire j'adore Mélanie et Julia. Vous faites une émission qui est vraiment géniale.
I love what you do, Mélanie and Julia. Doing an émission. A show that speak of. Well, je sais pas comment on dit bien-être.
Wellness.
Wellness.
Il y a du boulot. J'espère qu'on va apprendre des choses. C'est parti.
Merci beaucoup Clément pour cette intro. On va poursuivre à présent notre enquête du jour sur l'apprentissage des langues étrangères avec nos experts déjà en studio avec nous. Alors autour de la table, il y a déjà vous, Brigitte Lallemand. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de l'enseignement de l'anglais et l'auteur du livre « Je me remets à l'anglais pour les nuls » aux éditions First. Avec nous également ce matin, Guillaume alias Super Echo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes youtubeur et auteur du guide ultime pour tout apprendre et devenir un super héros qui est paru chez First également. Alors déjà un mot sur le constat, Brigitte. Qu'est-ce qu'on sait du niveau réel des Français dans les langues étrangères ? On est vraiment si mauvais que ça ?
Bon, les enquêtes très sérieuses, les enquêtes internationales montrent qu'on n'est pas très très bon, c'est évident. Mais ceci dit, je pense que peut-être on reviendra là-dessus par la suite, mais le français culturellement a été à une époque l'équivalent de ce qu'est l'anglais aujourd'hui, à savoir une langue reconnue internationalement. Et de cela, on a gardé l'idée que le français, c'est quand même mieux que tout. Donc, se cadrer, se coller dans la peau de quelqu'un qui parle une autre langue est un petit peu difficile pour des Français. Donc, il y a beaucoup un problème culturel, je crois, là-dessous.
Donc, ce n'est pas que l'école. Ce n'est pas la façon dont l'école nous apprend l'anglais qui pourrait poser problème en France.
On peut toujours tout améliorer. Donc, moi, je sais que j'ai appris l'anglais à l'école et que je pense que je l'ai bien appris. Et il y a beaucoup de jeunes qui apprennent l'anglais à l'école et qui l'apprennent très bien. Après, qu'est-ce qu'on veut dire en apprendre l'anglais ? On aura le temps de le définir un petit peu plus par la suite. Est-ce que c'est les verbes irréguliers, par exemple ?
Ça ne sert pas à grand-chose de les savoir tout seul.
Voilà. Ou est-ce que c'est d'autres choses ? Et c'est autre chose, peut-être qu'on va essayer.
Je crois que ce qu'on veut tous, c'est pouvoir communiquer, en tout cas, dans cette langue étrangère. Guillaume, Super Echo, le système scolaire, comme il l'est fait aujourd'hui, vous, je crois qu'il ne vous a pas tellement aidé à l'apprentissage des langues étrangères. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, en tout cas, au moment scolaire, on va dire, pour vous ?
Je pense que l'erreur, c'est qu'on se focus beaucoup plus sur l'étude de la langue que sur la pratique. Donc en fait, tout ce qui est verbe irrégulier, grammaire, syntaxe, c'est important, mais je pense que c'est quelque chose qui ennuie beaucoup, qui est très rébarbatif et qui empêche de rentrer dans l'amour d'une langue. Et je pense que pour devenir bilingue ou même être à l'aise dans une langue, il faut d'abord passer par une passion, par un amour. Et si on n'a pas ce truc-là, déjà, ça va être difficile. Donc moi, je trouve qu'on ne met pas assez en avance ce truc-là de la passion et de l'engouement pour une langue, en fait.
Et Brigitte, est-ce que vous ne pensez pas aussi que nous, les Français, on est un peu trop perfectionnistes ou trop snob ? Enfin, je ne sais pas comment dire le mot. C'est-à-dire que comme on préfère peut-être ne pas parler plutôt que de dire une sottise, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on parle
mal. Un mauvais accent. Ouais.
Oui. Bon, le mauvais accent, on reviendra sur autre chose. C'est un autre... Et vous disiez tout à l'heure que quelquefois, c'est très apprécié à l'étranger, notre mauvais accent.
Non, mais parfois, on ne sait pas comment dire les choses, on préfère se taire.
Et on préfère se taire. Alors, le problème est lié un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, mais aussi, il y a ce que disait Guillaume, il y a cet aspect émotionnel. Vous disiez tout à l'heure que quand vous êtes dans un hôtel et que vous n'êtes pas contente, vous savez le faire dire.
Oui, ça c'est ce que je disais hors de l'émission. Avant, oui. Maintenant, vous le savez. C'est vrai que moi, quand je suis dans un hôtel et que je ne suis pas contente à l'étranger, bah, bizarrement, les mots me viennent quand je dois manifester mon mécontentement.
Oui, parce qu'il y a quelque chose qui vient du corps. Qui vient. Voilà.
Guillaume, apprendre l'anglais en un mois. Alors vous l'avez fait pour une de vos vidéos YouTube. C'est vraiment possible ? Vous avez appris en un mois ? Vous pouvez dire n'importe quoi en anglais ?
Yes, of course. Et en fait,
c'est un peu léger là. Ouais, vous n'êtes pas allé bien loin. Hein.
On va y revenir. Mais du coup, en fait, pour moi, c'était plutôt une remise à niveau parce qu'en fait, j'avais
bonne base. Quand
voilà,
même.
J'avais des bases et j'avais besoin de me remettre dans la langue. Mm-hmm. L'idée, c'était plutôt de montrer qu'en un mois, c'est possible de s'immerger dans la langue sans partir à l'étranger.
Qu'est-ce que c'était votre défi ? Expliquez-nous.
Bah, le défi, c'était simplement de ne pas parler français pendant 30 jours. C'est-à-dire vraiment être à fond immergé. Donc, j'ai demandé à mes proches de me parler en anglais.
Partout, à la pharmacie, à la boulangerie.
À la pharmacie, etc. Alors, des fois, c'était un peu compliqué parce que du coup, ils ne parlaient pas du tout anglais. Donc, je disais, bon, là, tant pis. Et parfois, je tombais sur une épicerie où là, j'allais prendre le temps de parler anglais et de vraiment, du coup, être immergé à fond. Donc, j'avais séries, podcasts, j'avais les gens qui me parlaient autour de moi. Donc, c'était l'idée d'être comme si j'étais en Angleterre ou aux États-Unis sans, quitter ma maison. Quoi.
Et en un mois, le niveau, il a bondi, vous avez...
Ouais. Bah, en fait, il a bondi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais surtout perdu confiance et que j'avais besoin de retrouver cette confiance-là. Et c'est ça qui a marché, en fait.
Ah, génial. Bien, merci à tous les deux. Vous restez évidemment avec nous et vous aussi restez bien à l'écoute d'Europe 1, car dans Bienfait pour vous, ce matin, on va vous apprendre à parler anglais ou allemand en un rien de temps. Non, j'exagère un peu, mais on va voir ensemble ce qui bloque en général pour ceux qui n'y arrivent pas. Et puis surtout, on va mettre un coup de projecteur sur différentes techniques, différentes méthodes qui facilitent ce type d'apprentissage, y compris chez nos enfants. Restez bien avec nous sur Europe 1.
Europe 1, Bienfait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre émission Feel Good, Mieux Vivre. Ce matin, on vous pose cette question. Pourquoi a-t-on tant de difficultés en France avec l'apprentissage des langues étrangères? Alors, pour nous aider à atteindre un niveau d'anglais acceptable, on s'est bien sûr bien entouré aujourd'hui. Hein, en studio avec nous, Brigitte Lallemand. Vous êtes spécialiste de l'enseignement de l'anglais et l'auteur du livre « J'apprends l'anglais en 15 minutes par jour pour les nuls » aux éditions First. Nous avons également avec nous en studio Guillaume, alias Super Echo. Vous êtes youtubeur et auteur du guide ultime pour tout apprendre et devenir un super héros chez le même éditeur, c'est-à-dire chez First. Alors Brigitte, quelles sont les langues que l'on apprend le plus en France aujourd'hui et pourquoi ?
Oh bah, techniquement, tout le monde fait de l'anglais. Je crois que des gens qui ne font pas du tout d'anglais, ça existait dans une génération antérieure. On faisait de l'allemand en première langue et puis de l'espagnol en seconde langue. Maintenant, tout le monde fait de l'anglais.
Éventuellement, et plutôt en LV1, comme on dit.
Plutôt en LV1. D'autres se signalent un petit peu par autre chose, mais non, c'est pas globalement, c'est en LV1.
Apprendre une nouvelle langue, c'est utile évidemment socialement. On a tous envie de pouvoir parler ou de à l'étranger ou même ici avec des étrangers. C'est aussi, je crois, très bon pour notre cerveau d'apprendre une langue étrangère. Expliquez-nous.
Alors, apprendre une langue ou apprendre n'importe quoi, en fait, tout ce qui est l'apprentissage en général, ça permet en fait d'entretenir son cerveau. C'est comme un sport qu'on ferait pour son corps, mais pour son esprit. Et en fait, beaucoup de gens arrêtent d'apprendre au bout d'un moment. Et c'est aussi pour ça que bah, y a le vieillissement des cellules, le vieillissement des neurones. Il y a des maladies qui peuvent arriver comme Alzheimer. Donc en fait, c'est plutôt un sport qu'on fait pour son esprit qui permet de faire reculer pas mal de maladies. Donc c'est l'apprentissage en général. C'est pas juste les langues. C'est dès qu'on travaille la mémoire, en fait, finalement.
Exactement. Brigitte, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même des langues plus faciles que d'autres à apprendre? Est-ce que, je ne sais pas, il y a eu des études, ça a été étudié. Est-ce qu'il y a plus simple, par exemple, que l'anglais et moins difficile que l'allemand?
Bah, tout dépend de qui on parle. Si vous parlez à un Scandinave, il vous dit que l'anglais, c'est rien du tout, voilà. Pour nous les Français, il est évident que l'anglais a une difficulté spécifique. C'est l'accent anglais qui est difficile à acquérir. Sinon, l'anglais est quand même une langue qui a pris beaucoup, beaucoup au français. La cour d'Angleterre a parlé français à la suite de Guillaume le Conquérant pendant des siècles.
Donc, on a quelques mots en commun.
Non, pas quelques.
Beaucoup.
Le tiers des mots anglais, c'est du français. Le mot exact, je ne sais pas, mais il y en a énormément.
Ah oui. Pourquoi je ne les connais pas?
Toutes les langues, c'est comme ça en plus.
Et on n'utilise pas ça suffisamment.
C'est vrai.
Alors, ça, c'est vrai de l'anglais au français. C'est vrai aussi, bien sûr, à toutes les langues européennes. C'est pas vrai. Moi, quand je vais en Iran ou en Inde ou ailleurs, je suis complètement déstabilisée parce que je comprends rien. Mmh.
Mais par exemple, l'allemand, c'est connu que c'est super difficile, non? Il y a quand même une hiérarchie.
La grammaire est difficile, mais la prononciation de l'allemand est très facile. On reconnaît les mots du premier coup.
On parlait d'accent, justement, Guillaume. Comment vous avez fait, vous, pour avoir le bon accent en anglais? Je crois qu'il y a des films qui vous ont bien guidé, notamment.
Yes, so I watch a lot of movies and I try to imitate the accent of the actors. And it was all about trying to pay attention to the rhythm, to the tones, to the sounds.
Vous pouvez parler en français maintenant, votre traduise maintenant. Alors attendez,
gros,
j'appuie sur mon casque.
L'idée, c'était de
regarder des séries,
voilà,
regarder
des scènes de films avec des acteurs que j'adorais. Et j'essayais en fait de l'écouter et de le reproduire, pour essayer d'avoir en bouche en fait ce que faisait l'accent. Mais en même temps, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'accent, c'est pas si important en fait. Moi, je trouve que c'est secondaire. J'ai jamais été gêné par quelqu'un qui parle en français avec un accent. Et je pense qu'on peut se concentrer un peu là-dessus si on veut devenir bilingue et par exemple mieux s'intégrer dans une communauté. Mais en vrai, il ne faut pas trop se faire de mal avec ça si on a un mauvais accent en anglais, je pense.
Brigitte, vous dites qu'avec le métissage de la population, il n'est pas rare donc, d'avoir des enfants bilingues français plus le pays d'origine d'un des parents. Et vous dites que ces enfants-là auront plus de facilité à apprendre une troisième langue. Alors pourquoi?
Bon, tout ça reste à démontrer. Hein. Quand quelqu'un, un enfant ou un jeune homme ou un adulte, a la possibilité de parler dans une langue puis dans une autre, ça veut dire qu'il a acquis l'idée qu'on peut dire une chose d'une telle façon ou d'une autre façon. Donc ça lui lève une ouverture sur les autres langues. Mais ça ne résout pas tout.
Ouais.
Et ça dépend là encore des langues, parce que je parlais tout à l'heure des langues européennes. L'accent, c'est vrai, ce que vous disiez aussi. Sauf que si je veux parler de l'océan Atlantique et que je dis « ocean », est-ce qu'un Français comprend « océan » Non.
Bien sûr.
« Creature », une créature, on ne comprend pas. Alors qu'à l'écrit, c'est pareil.
Ouais. Hein,
et vous avez la même chose dans les deux sens.
Bon, puisqu'on parle des enfants, on va accueillir en ligne avec nous Julie Boucon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice de Holy Howly. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais c'est une appli pour apprendre l'anglais aux jeunes. Et je crois que l'idée est venue après avoir vu votre neveu qui revenait de Chine, justement, pratiquement bilingue en anglais. Racontez-nous.
Alors, en effet, donc on a lancé le concept avec ma sœur, donc qui s'est expatriée pendant un an en Chine et a scolarisé ses enfants au lycée français. Et quand elle est rentrée en France, elle a cherché justement à maintenir, voire améliorer, le niveau d'anglais de son fils notamment. Et donc, on a commencé à chercher des solutions. On a regardé qu'est-ce qu'il y avait comme ressources disponibles, que ce soit papier, numérique, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un trou dans la raquette. Donc, on a décidé de s'entourer de chercheurs linguistes, de professeurs et surtout d'enfants. On a ouvert un centre linguistique qui a été notre laboratoire d'expérience pendant 3 ans. Et on a pu développer une méthode pédagogique.
Et alors vous conseillez, enfin vous y prenez comment concrètement avec votre appli pour qu'un enfant, ben mon enfant, moi j'ai une petite fille de 4 ans et demi par exemple, quel est le principe si je la mets sur Holy Holy?
Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le pouvoir des écrans à des fins éducatives. Donc tous les enfants aujourd'hui aiment le numérique, donc on a développé une application dans laquelle on a intégré notre méthode pédagogique. Et les enfants, en 5 minutes par jour, vont quotidiennement apprendre 3 mots ou 3 phrases autour d'une thématique hebdomadaire. Donc on apprend dans le contexte, de façon intuitive, de la même manière qu'on apprend une langue maternelle. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré de la reconnaissance vocale, car pour apprendre une langue, il est essentiel de la parler. Donc les enfants, en autonomie, vont pouvoir répéter et prendre confiance en leur capacité à pouvoir parler une langue étrangère.
Et dites-moi Julie, pour l'instant c'est pour apprendre l'anglais, mais est-ce que vous allez bientôt proposer d'autres langues et si oui lesquelles, combien ça coûte aussi?
Alors tout à fait, donc à partir de juin nous allons proposer l'espagnol et suivra ensuite le chinois à partir de septembre.
Et ça coûte combien?
Alors c'est un système d'abonnement, on peut essayer l'application pendant une semaine gratuitement et ensuite on a des abonnements à partir de 4,99€ par mois.
Eh bien merci beaucoup Julie pour votre intervention et bonne merci continuation à vous. Alors Guillaume, vous avez travaillé avec une autre appli à un bout pour vous perfectionner en anglais, je crois qu'elle s'appelle Cambly. Cambly, j'allais dire Comblay, je voulais faire à l'américaine. C'est quoi le principe?
C'est tout simplement d'avoir des personnes natives disponibles, c'est-à-dire qu'on se connecte sur l'application et on va avoir quelqu'un avec qui est un américain, on va avoir un écossais. En fait, on a tous les types d'accents.
C'est génial.
Et, mais après, il n'y a pas que Cambly, il y a iTalki aussi. En fait, l'idée, c'est simplement d'avoir des applications ou même des sites où on peut parler avec des personnes natives, parce que c'est ça le plus important pour l'apprentissage
et,
des langues.
Et c'est payant, ça? Et vous ne parlez gratuitement, les gens, non?
Ah non, c'est payant. Après, on peut toujours contourner. Je veux dire, on peut toujours trouver des communautés, par exemple, je ne sais pas, hispaniques ou anglaises en France et aller dans un café pour parler avec eux. On peut skyper
ça se trouve
avec
facilement aujourd'hui. Ce genre
on peut
de
toujours trouver des choses gratuites et c'est ça aussi qui est bien.
Brigitte, vous parliez des Scandinaves tout à l'heure pour qui l'anglais était simple, mais on a toujours l'impression que les Scandinaves, ils parlent mieux toutes les langues, mieux que tout le monde. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont plus intelligents?
Je ne sais pas, aucune. ma connaissance, aucune étude ne l'a montré. Mais en revanche, ils ont une langue qu'on ne parle pas ailleurs. Donc s'ils veulent parler avec quelqu'un d'autre, il faut bien qu'ils parlent une autre langue, et en l'occurrence l'anglais. C'est vrai pour les Scandinaves, mais c'est vrai aussi en Hollande, par exemple.
C'est très clair. Hein. Merci, merci beaucoup. On va continuer, évidemment. On n'a pas fini avec notre sujet de ce matin. Et si on prenait une, voire plusieurs langues étrangères? Enfin, ce matin, on vous donne les bonnes astuces, les bonnes méthodes pour y parvenir. Et puis après, il faudra quand même travailler un peu. Si c'est votre rêve de parler couramment anglais ou même japonais, qui sait? On vous donne le mode d'emploi aujourd'hui. Et vous savez quoi? L'hypnose peut-être vous y aider. On vous en parle dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Notre question du jour, la voici. Pourquoi a-t-on tant de difficultés en France avec l'apprentissage des langues étrangères? On en parle avec Guillaume, alias Super Echo, youtubeur et expert en apprentissage, ainsi que Brigitte Lallemand, spécialiste de l'enseignement de l'anglais. Alors Brigitte, quand on l'apprend l'anglais par exemple, il vaut mieux se concentrer sur l'accent ou laisser ça de côté, comme le disait finalement Guillaume tout à l'heure? Qu'est-ce qui est important finalement? Déjà, savoir faire des phrases correctes, c'est...
Non, la seule chose importante, c'est le sens.
Ah oui.
C'est le sens dans les deux sens, hein. Le sens que l'on comprend et le sens que l'on exprime. Et ça, tout le reste doit venir aider cela.
Alors on est d'accord que mon fils en 5e qui apprend l'anglais, il apprend des phrases par cœur, il ne comprend même pas ce qu'elles veulent dire, ça n'a aucun intérêt.
S'il ne comprend pas, ça n'a strictement aucun intérêt. Vraiment.
Oui. Et si, Super Echo, je m'adresse à vous, Guillaume, si on a honte de parler devant les autres, ce qui m'arrive, moi, à cause d'un accent épouvantable, comment on peut faire pour se débarrasser de la peur du regard des autres? Vous avez un truc, vous, pour ça?
Je pense que c'est souvent une question de désensibilisation. C'est-à-dire qu'on s'habitue à cette, à ce mal-être ou à ce malaise à parler aux gens, tout simplement en le faisant petit à petit. Et dans le cadre de l'apprentissage d'une langue, ça peut être de tout simplement commencer déjà à parler seul chez soi, à parler, à construire des phrases
comme vous
seul.
L'avez fait avec
oui,
des
voilà.
séries et tout.
À du coup, à parler oralement, même s'il y avait, comme s'il y avait quelqu'un. Et puis petit à petit, on peut aussi se dire, moi je sais que j'ai fait d'abord avec un ami anglais que je connaissais, donc il y avait ce truc-là où je me sentais pas jugé. Donc en fait, petit à petit, je prends confiance dans des petites étapes et jusqu'à arriver à faire contre, enfin en face de quelqu'un que je connais pas du tout et où je vais avoir peur. Quoi.
Et ça vous est arrivé ça ?
Oui.
Et
oui,
ça
oui.
va
Oui, bah, en fait, c'est comme tout. Hein. Si on le fait petit à petit, généralement, ça se passe bien. Quoi.
Brigitte Lallemand, est-ce que pour apprendre une langue étrangère, le mieux, ça ne serait pas finalement d'aller dans un pays étranger plusieurs mois, par exemple, plusieurs semaines en tout cas ? Je crois que vous, vous avez commencé à apprendre l'anglais de cette façon-là.
Pas vraiment, parce qu'en fait, moi, j'étais élève de lycée. J'ai eu la chance, quand j'avais 13 ans, d'être faire partie d'un échange avec une correspondante anglaise. Je me suis retrouvée dans une famille. Je ne savais pas dire grand-chose, mais j'ai beaucoup appris. J'ai appris énormément avec les contacts avec cette famille. Et ça a duré 3 semaines, hein,
mais ça a bien complété
besoin.
Votre formation.
Mais ça complète ouais. largement et ça permet d'asseoir et justement de donner une motivation et d'éviter ce que vous disiez tout à l'heure, d'avoir honte de parler. Parce que ben voilà, personne ne se moquait de moi quand je demandais à voir. Enfin, c'était...
Et vous conseillez donc aux gens qui nous écoutent, si c'est possible pour
faire.
Eux, de, s'ils peuvent le faire,
Absolument.
Parce que ça coûte cher,
Absolument.
De pouvoir envoyer leurs enfants, je ne sais pas, dans un campus même, ou plutôt en famille, c'est quoi le mieux ?
Moi, ça c'est à titre personnel. Hein. Je trouve que le mieux, c'est de les envoyer en famille, c'est-à-dire dans un endroit où ils seront avec des anglophones, en l'occurrence, et pas dans les groupes français où on a des cours comme à la maison,
oui,
finalement.
C'est plus d'écolo.
C'est
voilà.
plus d'écolo à ce moment-là.
Mmh. Bon, on va passer à une autre méthode en vogue en ce moment pour apprendre une langue étrangère, c'est l'hypnose. Et nous accueillons pour cela en ligne depuis Bordeaux, Gershon Pinon. Je ne sais pas si j'ai bien dit votre nom. Bonjour.
C'est pas trop mal. Bonjour.
Bonjour. Vous êtes le fondateur d'HypnoLedge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi ? Je crois que c'est une appli qui nous fait apprendre l'anglais sous hypnose. C'est bien ça ?
Alors c'est un gros réducteur hein, parce que c'est pas concrètement l'hypnose qui va permettre de faire apprendre. Je vais rejoindre un petit peu ce que je vous écoutais parler. Voilà, nous l'idée d'HypnoLedge c'était de travailler sous hypnose sur deux grands versants. Le premier c'était vraiment le système cognitif et neurologique de l'apprenant pour l'aider à assimiler d'une manière plus rapide et surtout dans un état un peu plus optimum au niveau de ses capacités cognitives pour être en immersion dans l'apprentissage. Et la deuxième partie de l'appli c'était justement pour travailler tout cet aspect dont vous avez parlé qui est plus l'aspect psychologique, émotionnel, affectif, et qui est en lien avec bah, la peur de s'exprimer, les blocages que j'ai pu rencontrer, qu'est-ce qu'on va penser de moi si justement ma prononciation n'est pas bonne, le sentiment de non-aisance à l'oral, le manque de confiance, le manque d'estime, et c'est vraiment ce double travail qui va s'opérer au sein d'HypnoLedge, où quelque part on se retrouve avec un outil qui est l'hypnose,
mais oui,
et qui va pouvoir amener... Ouais.
Oui, comment vous faites pour hypnotiser les gens à distance ?
Alors, au sein de l'application, alors moi je suis psychologue à la base, mes deux cofondateurs également sont hypnothérapeutes, donc on a vraiment préenregistré tout un tas de ce qu'on va appeler d'induction hypnotique, catégorisées en différentes formes de mise en état d'hypnose, et l'apprenant, avant chaque cours, va pouvoir sélectionner la voix qui va l'accompagner, le type d'hypnose qu'il souhaite pour justement démarrer son apprentissage avant d'écouter le cours qui va s'en suivre. C'est-à-dire que nos cours sont standardisés sur 25 minutes, sur la partie écoute du cours sous hypnose. Il va y avoir 6 à 9 minutes de mise en état d'hypnose pour vraiment placer l'apprenant dans cet état à la fois de détente, de relâchement, mais surtout aller solliciter ses ressources inconscientes pour centrer son attention, sa concentration, son focus sur les stimuli qui vont arriver. Et les stimuli, en l'occurrence, ce sont des scénettes en immersion jouées par des professeurs natifs et avec un niveau de langage adapté au niveau dans lequel il est pour justement vraiment imprégner l'algorithme de la langue, la prononciation, laisser vraiment cet inconscient enregistré dans un contexte immersif.
Gershon, combien ça coûte votre application pour ceux qui nous écoutent que ça intéresse ?
Ouais, c'est toutes les langues en illimité sont disponibles pour 19,90€ par mois sans aucun engagement de durée. Avec 14 jours d'essai gratuit.
Très bien. Bah, écoutez, merci. Voilà. Merci beaucoup, Gershon, d'avoir répondu à nos questions. Super écho quand, ça y est, on a appris une langue, on est bilingue. Vous conseillez de la pratiquer encore tous les jours ? Vous continuez ? Après ce mois d'immersion, vous avez fait votre test ?
Malheureusement, moi, je ne suis pas un très bon élève. Je n'ai pas continué parce que je n'ai pas forcément de proches qui parlent anglais.
Donc, vous le perdez, votre anglais ? Vous n'avez pas l'impression ?
Disons que je ne le perds pas vraiment. En fait, je perds juste la confiance. Mais disons que la plupart du vocabulaire reste. Mais alors, si on devient bilingue, je pense que déjà, normalement, on ne va pas avoir besoin de réviser trop souvent parce qu'on est devenu bilingue pour une raison pro ou personnelle. Donc, de toute façon, on va avoir des occasions régulières de pratiquer la langue. Par contre, si on apprend, par exemple, une nouvelle langue pendant 6 mois et qu'après on arrête, je pense qu'il faut au moins continuer à parler 1 heure par semaine, minimum. Vraiment, c'est vraiment le minimum. Et après, il faut plusieurs fois par semaine.
Mais vous continuez quand même à regarder des séries sans
sous-titres ?
Oui.
Bah, ça, c'est, ça,
depuis
c'est
jamais... longtemps ?
Oui, ça, ça a toujours été le cas. Et ça, pour moi, c'est même 2 choses différentes parce que j'ai toujours très bien compris tous les films. Par contre, c'était parler qui était un peu plus dur.
C'était plus difficile pour vous. D'ailleurs, Brigitte, qu'est-ce qu'il faudrait changer selon vous dans les cours d'anglais à l'école aujourd'hui ? Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, moi, des classes plus petites, ça ne serait pas déjà une bonne solution pour augmenter le niveau des petits Français ?
Là, je crois que vous avez déjà touché probablement.
Bah oui, parce qu'à 35 dans une classe, ce n'est pas facile.
35 dans une classe, c'est très difficile. Même dans les collèges, c'est quand même plus 35 maintenant. Je crois que c'est environ 25. Mais c'est quand même beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai qu'une langue s'apprend par la pratique, ce que vous disiez tout à l'heure. Mais cette pratique, on ne peut l'avoir que quand il y a des échanges. Alors, il y a beaucoup de possibilités. Hein. Des professeurs conduisent des cours avec des tables en carré, en donnant des tâches qui nécessitent que les élèves interagissent entre eux. Donc, il y a cette espèce d'interéchange qui permet ce que décrivait monsieur tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'il faut... Après, vous savez, les professeurs, il y en a qui sont très, très, très bons. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un très bon professeur il y a fort longtemps. Et il y en a qui sont sans doute un peu plus réfractaires ou un peu plus tournés vers la primauté de la grammaire. C'est ce que vous disiez un petit peu en début. Ça, c'est un peu un défaut français et franco-français.
Et nous, parents, pour nos enfants, est-ce qu'on peut faire quelque chose à la maison pour
leur
donner envie ?
Ouais, leur faire écouter des séries, l'anglais, des séries, des films, des chansons. En général, vos enfants, ils sont un peu petits. Donc
écoutent de la musique américaine,
Mais les chansons, c'est un très bon, très bon moyen aussi. Mais écouter l'anglais, surtout le sens et le contact.
Je crois que Guillaume, vous avez tenté une autre langue, c'est la langue des signes. Votre objectif, c'était d'avoir une conversation avec une personne malentendante. C'est plus difficile ou pas que l'anglais ?
Ouais, du coup, c'était pour communiquer avec des sourds et c'était, je pense, plus facile parce qu'il y avait quelque chose de plus instinctif dans la langue, parce qu'il y a des gestes, il y a des expressions du visage, il y a aussi de l'oralisation de la part des sourds, donc parfois on entend les mots. Donc c'est un peu plus facile. Je pense qu'en un mois, j'avais peut-être le niveau en langue des signes de 3 mois d'anglais, peut-être, c'était, si on peut comparer. Donc c'est un peu plus rapide et je trouve ça beaucoup plus jouissif aussi parce que c'est comme un peu un jeu de théâtre. Il y a beaucoup de choses avec les émotions et les expressions du visage. Donc c'était, je pense, plus facile qu'une langue orale en général.
Il y en a une autre en prévision de langue là, que
espagnol.
Vous allez vous
parce
y mettre.
Pareil, j'ai un niveau pourri à cause de l'école. J'ai vraiment pas bien appris l'espagnol à l'école.
Mais pourquoi alors ni l'anglais ni l'école, c'était quoi le problème? Des classes trop grandes? On en parlait avec Brigitte, trop nombreux
ou... Non, mais c'est juste que je pense que moi j'étais
manger du verbe irrégulier, ça vous intéressait pas quoi.
Ouais, et puis en fait on nous connecte pas à l'utilité de l'apprentissage. C'est vraiment juste, vous rentrez, vous avez des exercices, des devoirs, et il n'y a pas ce truc-là de pourquoi ça serait important pour vous d'apprendre l'espagnol. Qu'est-ce qui pourrait vous motiver? Et moi, c'est ça que j'essaie de...
Et qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui, alors?
Partir en Colombie. Ah, voilà. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut d'abord apprendre une langue avant de partir à l'étranger pour vraiment profiter du voyage. Donc c'est un peu contre-intuitif. Mais je trouve ça intéressant.
Oui, mais est-ce qu'apprendre une langue étrangère, vous ne pensez pas aussi que c'est quelque chose qu'on a envie d'acquérir en grandissant? Et peut-être que quand on est enfant, finalement, on ne voit pas l'intérêt. Ouais. Alors que nous, quand on a grandi, qu'on a envie de voyager et qu'on a de quoi voyager, on a très envie de savoir parler autre chose que le français.
C'est sûr que quand j'étais jeune, je n'étais pas trop porté finalement sur tout ça. Donc ça ne me choque pas que les jeunes ne soient pas forcément très forts à leur âge, mais après, je pense que ça se développe avec le temps et c'est les occasions et les voyages aussi. On peut aussi tomber amoureux d'une langue en faisant un voyage quand on a 5 ans et se dire « Ah bah tiens, c'était trop bien l'Égypte, j'ai envie d'apprendre l'arabe » et puis 10 ans plus tard, on apprend l'arabe, quoi.
Très bien, merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin pour cet entretien. Je crois qu'on est plus motivés que jamais pour se lancer ou se relancer dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Vamos, bien por ti, continua, con qué vamos a seguir, Julia.
Eh bien, Hola. Mélanie, vamos a pasar à la séquence tendance de Bienfait pour vous. Soazic Belin a testé un atelier d'éveil musical pour les tout-petits. Il en ouvre un petit peu partout en France en ce moment. Elle nous dira ce que ça vaut pour nos bébés. Et puis Vincent Busset nous rejoindra à son tour. Il va nous présenter plusieurs marques vraiment très innovantes dans le secteur de la déco d'intérieur. Que du bon à venir, rien que pour vous. Alors je vous le dis, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous. Vous êtes de retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on tente de vous faciliter le quotidien tous les matins de 11h à midi. Et c'est notre partie consacrée aux tendances qui va démarrer à présent. Je me tourne d'abord vers vous, Vincent Busset, bonjour.
Bonjour.
Dans votre chronique déco du jour, pas mal
de choses innovantes, je
crois.
Et
oui, alors les marques sont-elles condamnées à innover pour exister? C'est pas le sujet du bac philo, mais il vient de la chronique. Donc on va voir ça, tout ça.
Vous n'aurez pas deux heures, vous aurez cinq minutes. Merci Vincent, on vous retrouve dans un instant. Car tout de suite, c'est Soizic Belin qui va nous transporter dans une bulle musicale. Bonjour Soizic.
Bonjour.
Alors dans cette bulle, on ne sera pas tout seul, car il y aura une bonne dizaine de bébés, c'est ça?
C'est ça, à peu près. Une dizaine. Ils se multiplient, et je parle du coup d'éveil.
Pas des bébés.
Non, pas des bébés, mais ils se multiplient aussi les bébés. Hein. Bon. En tout cas, l'éveil musical, c'est un peu le must lorsque l'on souhaite partager un moment privilégié avec son petit. La musique, c'est bien connu, hein, adoucit les mœurs et réchauffe les cœurs, et elle a le mérite d'être universelle puisqu'elle touche chacun d'entre nous. Alors j'ai choisi d'assister à un atelier 3 mois, 3 ans, proposé par la Philharmonie de Paris.
Et alors, comment se déroulent ces ateliers?
Alors vous arrivez dans ce sublime bâtiment, hein, une aile est dédiée aux ateliers, et au bout d'un couloir, un son nous interpelle. Une musique vient nous chatouiller doucement les oreilles. C'est le musicien qui est là pour nous accueillir. L'important est de cueillir les mélomanes avant d'entrer dans la salle et de les mettre dans l'ambiance. J'ai d'ailleurs demandé à Renaud Olivier, qui est un des musiciens intervenants, comment il envisageait ces ateliers destinés au jeune public.
L'important en tant que musicien, c'est l'échange humain déjà. Donc je me place tout de suite en tant que humain et pas en tant que musicien. Ici, je partage des choses humaines avec des enfants au travers de la musique. Et voilà, c'est vraiment comme ça que je vois la séance. Et la musique, pour moi, c'est un vecteur de partage. Et c'est ce qui s'est passé ce matin et c'est ce qui se passe à chaque fois. Et voilà, moi, ce qui me rend heureux, c'est ça. Et ce qui me fait continuer et avancer dans ces ateliers et essayer de découvrir, c'est ça. Et c'est toujours ça.
Peu importe l'âge.
Peu importe l'âge.
Oui, parce que lors de ces ateliers, il ne faut pas se méprendre, on n'est pas là pour préparer dès ces 3 mois votre petit à rentrer au conservatoire, mais le but est de découvrir par le toucher, par le son, par l'écoute de la musique et les sensations qu'elle nous procure, et tout cela dans le partage avec les autres. Et quand je parle des autres, il s'agit aussi bien des autres enfants que des autres parents, parce que l'attitude du référent à l'adulte qui sera présent et qui accompagnera l'enfant va influer le comportement du petit.
Donc ça veut dire que les parents sont aussi actifs dans l'atelier que les enfants, c'est ça?
Dans le meilleur des cas, oui. Alors on aide son enfant à toucher les instruments proposés, parfois il peut avoir peur, les instruments sont grands, hein. Et puis on l'aide aussi quand il est trop petit pour faire des percussions par exemple, on peut détourner l'usage de l'instrument en grattant, en caressant les percussions membraphones. On découvre et on se lâche, s'il vous plaît, hein. L'oreille guide le geste.
Et donc ce sont des instruments classiques, ce ne sont pas des instruments réservés aux enfants?
Non, ce sont des instruments classiques, hein, ceux qu'on a l'habitude d'avoir. Alors plus ou moins connus du grand public. Chaque musicien qui dirige son atelier propose des instruments différents, mais ce ne sont pas des instruments qui ont été créés pour les enfants. En tout cas, le fil conducteur de ces ateliers, c'est d'arrêter de prendre la musique au sérieux. Je m'explique, on est là pour prendre ce qu'elle nous apporte de plus primaire, le plaisir, les émotions, et il n'y a pas d'instrument plus noble que d'autres. Et à la fin du cours, même si les comportements divergent, on réussit à se lâcher.
Mais alors, choisis que l'éveil musical, c'est pas seulement réservé aux plus petits.
Non, bien sûr, il y a plusieurs tranches d'âge. Je trouvais ça intéressant de vous parler de celle-ci qui est un peu exceptionnelle et made in la Philharmonie grâce à Agathe Leforge qui crée tous les ateliers du lieu. Mais souvent, on commence à 1 an et après, l'atelier peut aussi revêtir des formes totalement différentes. On peut choisir de partir sur des thématiques, des compositeurs. C'est le cas de l'association Au Creux de l'Oreille qui a plusieurs ateliers à Paris et qui propose des sessions intitulées La mère dans la musique classique, Mozart, Casse-Noisette.
Voilà. Ah, c'est bien ça, mais ce type d'activité, c'est pas réservé, j'espère, qu'aux Parisiens. Est-ce que vous avez d'autres adresses?
Non,
à
j'ai quelques petites adresses. Alors à Lyon, vous avez l'atelier Touche à tout, l'atelier Contine et Tambourin. À Bordeaux, vous avez l'éveil musical des Caprices. À Toulouse, les éveils musicaux. Mais ils commencent leur atelier à partir de 4 ans. À Rennes, vous avez l'atelier d'éveil et d'expression Terre des Arts. À Lille, Ludi Musique. Et puis sinon, n'hésitez pas à faire une simple recherche sur Internet pour les villes que je n'ai pas citées. Et le bouche à oreille dans les crèches et les maternelles, très important. Il y aura certainement un parent mélomane qui saura vous donner la bonne adresse.
Merci beaucoup, Soizic, pour cet éclairage et pour ce reportage. On n'a pas de bébé, Julia, mais si Julia, je sais pas, vous avez peut-être envie d'en faire un autre.
Voilà, à 46 ans, je l'ai fait faire.
Bon, voilà, on verra. Vous inscrire avec lui, j'ai aucun doute. Alors, Julia, je crois que vous attendez surtout avec impatience la chronique de Vincent Bucet. Alors, Vincent, quoi de neuf aujourd'hui dans nos intérieurs?
Eh bien, de l'innovation. C'est vrai que l'innovation, c'est quand même la plus grande qualité de l'être humain. Et en décoration, alors l'innovation, elle change pas notre vie, mais elle permet quand même d'apporter des objets qui rendent notre quotidien plus agréable. Donc, ça peut être des objets qui sont soit plus écologiques, plus beaux, plus pratiques. Mais attention, l'innovation, c'est surtout du marketing. C'est un petit peu comme les tendances. et c'est surtout un excellent moyen de nous faire ouvrir notre porte-monnaie. Donc ça, les marques l'ont bien compris. Donc on va commencer par exemple
par
avec...
C'est une radio.
Alors Lexon, il y a deux petits produits. Il y a une radio, on peut commencer par celle-là effectivement, qui résiste aux projections d'eau. Donc ça, c'est très bien dans la cuisine ou dans la salle de bain le matin pour écouter Europe 1 sans se
Vous jettez de l'eau dessus, c'est ça. Il n'y a plus d'eau, il est vide mon verre.
Voilà, on peut bien évidemment écouter la radio ou mettre la musique de son téléphone dessus.
Tu peux nous apporter un seau d'eau en régie, Julien voudrait s'arroser avec la radio pour voir si elle est vraiment étanche.
Non, je confirme, c'est étanche. Et donc Lexon, c'est vraiment une marque qui place l'innovation au cœur de tous ses produits.
Vous savez, pour la salle de bain, c'est génial,
eh ben,
je trouve.
Et la cuisine aussi. Et, et donc cette marque a quand même eu 180 distinctions au niveau du design, donc 180 prix, ce qui n'est pas rien.
Et ça coûte cher, ça?
Non, 60 euros. Donc c'est vraiment des petits objets du quotidien, Lexon.
Et on écoute la radio avec ça et on peut écouter
Europe 1, surtout. Exactement.
Europe 1 marche très bien.
Le matin, sous la douche.
Ouais, c'est parfait. Il y a quoi d'autre?
Alors là, on va changer de marque. Allez, ça, j'aime bien. Alessi.
Oh, c'est quoi, ça? C'est drôle.
Une marque dont on a déjà parlé. C'est une boîte à biscuits. Alors on dit, OK, une boîte à biscuits et tout ce qui est plus banal. Non, c'est sur le dessus que ça s'ouvre. Ah. Et donc, l'idée au niveau de l'innovation, c'était de mettre les sens en éveil. Alors, tout d'abord, au niveau du design, et oui.
Et ça alors, sent bon
directement, ça sent un petit beurre.
J'adore. Voilà. Mélanie, sentez-moi ça.
Donc, au niveau.
Attendez, on explique. Hein,
alors, c'est une boîte à gâteau. Donc, la forme reprend sa fonction. C'est-à-dire qu'on a une forme qui ressemble quand même à un biscuit. On a des matières qui sont douces à toucher. C'est ce qu'on appelle du soft
touch. En gros, je décris quand même l'ensemble. C'est, on dirait, un espèce de coussin en plastique.
Ben, c'est censé représenter un biscuit.
Voilà.
En fait.
Et le biscuit beurre, petit beurre, qui est posé dessus, c'est le couvercle.
Exactement. Et le couvercle, c'est vraiment le.
Oh, c'est génial.
Ben oui. Et alors, pour la petite histoire, c'est la boîte que j'ai chez moi et ça fait des années que je l'ai et je suis fasciné.
Mais vous avez fini tous les gâteaux, hein, parce qu'il n'y a plus rien à l'intérieur.
Mais ça sent, quelques années après, ça sent encore.
Je trouve
ça
dingue. Extraordinaire.
Voilà. Et c'est pareil, ça coûte 52 euros.
Et cet objet, c'est quoi? Alors, j'essaie de décrire aux auditeurs, on dirait, je ne sais pas. Comment ça s'explique?
C'est ce qu'on appelle un mobile, tout simplement.
On connaît les mobiles qu'on met au-dessus des lits de nos enfants, on dirait un mobile pour
Exactement.
Adultes.
Exactement. Alors, les mobiles, il y a eu ceux pour les enfants, bien évidemment. Et puis, dans les années 70-80, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait aussi des mobiles, mais qui sont tombés un petit peu en désuétude finalement. Et Volta, qui est une marque assez jeune, qui a été créée en 2015, a remis sur le devant de la scène les mobiles. Ils ont un petit peu dépoussiéré tout ça et ils se sont inspirés à la base des mobiles d'Alexander Calder, qui est un artiste américain. Je ne sais pas si vous connaissez, Georges Pompidou à Paris. Et du coup, ils ont copié ça au début, puis après, ils ont étendu leur gamme et ils ont fait des modèles qui leur sont propres maintenant avec des formes et des couleurs.
Ils sont très jolis. Là, ce sont des ronds suspendus sur ce mobile,
Exactement.
Des ronds bleus de tailles différentes avec une base de doré.
Oui, on est d'accord que ça ne sert à rien.
Non, alors là, l'innovation, elle est plus dans le type d'objet proposé. Et moi, je trouve ça...
C'est un très bel objet de déco.
Poétique, apaisant, aérien. Et puis ça
si
évolue
vous le touchez, là,
du...
ça doit détendre un peu, non?
C'est juste posé, mais ce qui est intéressant...
Non, mais ça bouge, je veux dire.
Oui, c'est que chez soi, je vais le casser. Bon, je vais le poser. c'est qu'avec le courant d'air, finalement, ça évolue.
C'est très joli.
Voilà.
Ça coûte cher, ça?
Non, pareil, c'est 130 euros. Alors, c'est un petit peu élevé, mais ça reste quand même accessible. Et puis, pour terminer, un livre.
Je l'ai aussi.
Ah ben, décidément.
Tous les derniers objets design.
Julia va vous expliquer ce que c'est.
Alors, je vous explique ce que c'est là. J'ai entre les mains un mini livre,
Exactement.
Mais il existe dans d'autres formats.
Et d'autres matériaux aussi.
Et d'autres matériaux, oui. Même en bois. Moi, j'en ai un en
Exactement.
Bois qui est très, très joli.
Vous aimez bien le bois chez vous.
Oui, j'aime bien.
C'est la version noyée
Non, c'est la version un peu plus claire, un peu plus chêne.
Oui, c'est ça.
Et regardez, quand j'ouvre ce livre...
Oh, que c'est joli.
C'est une lampe.
C'est une lampe. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'ouvrir à moitié, cette lampe.
Et en plus, il n'y a rien à lire. C'est ça qui est génial.
La poser sur une table, par exemple. Mais normalement, je crois qu'il y a une attache. Vous pouvez également faire comme ça. Vous l'attachez. Donc là, je l'ai ouvert entièrement. Et vous pouvez en faire une suspension. Parce qu'ils vous le vendent avec un petit lien.
Mais ouvert en livre, c'est très beau, je trouve. Hein,
mais
poser,
oui, ce que j'aime bien, c'est que c'est un objet qui est nomade, qui se recharge en USB. Donc, il nous accompagne pareil au fil de la journée.
Ça ressemble à un gros lampion, une fois qu'elle a complètement ouvert le livre. On dirait les gros lampions un peu chinois.
Et ça donne une lumière qui est très douce. Et dans une chambre à coucher, quand on bouquine le soir avant de s'endormir, je trouve ça bien. Et quand on a envie de se coucher, on ferme le livre tout simplement.
En fait, c'est une formidable lampe d'appoint, même
c'est
à la maison.
C'est ça.
Sur une terrasse d'ailleurs. Et ça se recharge en
USB.
En USB.
Tout à fait, exactement.
Vincent Busset, on est avec. Et ça coûte combien, ce
160 euros. Ouais, non, alors très honnêtement, c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Maintenant, c'est un bel objet.
Mais c'est joli,
voilà. Et puis ça reste surtout.
Mais donc l'innovation, on adopte, mais c'est pas obligé non plus.
Non, c'est pas obligé, c'est comme les tendances. Il faut surtout choisir des objets qui nous plaisent et qui ont intérêt chez soi. Et puis s'ils sont innovants, tant mieux.
Je vais retenir la boîte à gâteau avec le petit beurre.
Mais excusez-moi, cette boîte à gâteau, c'est la vôtre? On peut l'acheter quelque part?
Oui, alors c'est Alessi. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on a fait une chronique où j'avais présenté un presse-agrumes en forme d'araignée. Mais c'est la même marque, sauf que là, c'était Stark qui avait dessiné ça.
Vous me dites que ça fait plusieurs années que vous l'avez.
Oui.
Mais il continue à la faire, cette boîte?
Ah oui, alors effectivement, quand je parle innovation, l'innovation. Moi, je trouve que encore aujourd'hui, c'est innovant, même si ça fait plusieurs années que ça existe. Ils étaient vraiment très, très en avance pour le coup.
Moi, alors oui, je n'avais jamais de tous les objets que vous nous avez présentés, c'est la.
C'est sûr qu'elle n'a pas. C'est sûr qu'elle n'a pas.
Eh ben, vous savez quoi, ça
mais
n'est
je l'adore,
plus.
Moi,
ça
j'adore.
N'est plus la vôtre. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour toutes ces innovations et ces découvertes, Vincent. On a tout bien noté. J'espère que vous avez passé une heure bien sympathique en notre compagnie. Nous, évidemment, on était ravis de vous accompagner ce matin une fois de plus. Nous serons de retour demain dès 11h. Et Mélanie, quel sera notre grand sujet du jour ?
Alors Julia, demain, on restera dans la thématique déco, mais vraiment tournée davantage vers le bien-être et le développement personnel. On vous propose un focus sur la déco des émotions. Comment créer un chez-soi profondément en cohérence avec nos besoins ? Quelle est la couleur qui pourrait transformer ? Qui sait votre vie ? On vous expliquera tout cela demain avec nos invités.
Mais pour le moment, place à l'info sur Europe 1, car à suivre, c'est Europe Midi avec vous, Romain Desarmes. Alors, quel est le programme, Romain ?
Bonjour Julia, bonjour à tous. Le programme d'Europe Midi, gros programme. On va parler de la fin du retrait de points sur le permis pour les petits excès de vitesse. Attention, c'est un projet. C'est une bonne ou une mauvaise idée ? On va en débattre. On va parler du burkini également. Et puis de la crise à l'hôpital public. Voilà le programme d'Europe Midi. À tout à l'heure. À tout de suite, même dans quelques minutes.
Merci beaucoup Romain. À tout de suite.